à Washington.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, édition les 17h30, temps universel de ce 7 novembre 2019. John Lydon à la présentation. Tout d'abord, les titres de cette édition. 30 ans de prison, c'est la peine retenue ce jeudi par la CPI contre Bosco Ntaganda, reconnu coupable des crimes contre l'humanité. Au Nigeria, au moins 10 soldats ont trouvé la mort lors de l'attaque attribuée à Boko Haram dans le nord-est du pays. Quelques 941 000 Mauriciens étaient appelés aux urnes dans les législatives. Le Premier ministre sortant espère obtenir l'onction publique. Cela fera 3 ans demain que Donald Trump a été élu 45e président des États-Unis. Sa présidence reste marquée par une tension entre démocrates et républicains.
L'enjeu de cette bataille, c'est la survie de la démocratie américaine elle-même. Ne vous leurrez pas. C'est ce qu'ils veulent. Ils détruisent ce pays, mais nous ne les laisserons jamais faire.
Et puis, ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. La Cour pénale internationale a condamné aujourd'hui l'ex-chef de guerre congolais Bosco Ntaganda à 30 ans de prison pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Claire Morin-Gibourg.
Versus Bosco Ntaganda. Case reference, ICC.
Mr. Ntaganda, please rise.
Des meurtres ont été commis à grande échelle, a affirmé le juge Robert Frem, précisant que les juges avaient pris en compte la cruauté particulière de certains crimes. 5-4-3-2-1-0. Précisant que les juges avaient pris en compte la cruauté particulière de certains crimes perpétrés par Bosco Ntaganda et par ses troupes en RDC au début des années 2000.
Pour le viol de civils considéré comme un crime contre l'humanité et un crime de guerre, 28 ans, pour meurtre et tentative de meurtre, crime contre l'humanité et crime de guerre, 30 ans, pour des persécutions, crime contre l'humanité, 30 ans.
C'est la peine maximale autorisée par la CPI en dehors de la peine de prison à perpétuité. Bosco Ntaganda est resté impassible à l'audience et ses avocats ont promis de faire appel de la sentence.
Et des milliers de personnes ont fui les combats dans la région de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, où l'armée mène des opérations contre les rebelles ougandais des ADF, les forces démocratiques alliées. Cet afflux est lié à l'offensive lancée le 31 octobre par les forces armées congolaises contre les ADF, un groupe armé d'origine ougandaise. La région de Beni, qui est par ailleurs touchée par une épidémie d'Ebola, déclarée en août 2018. Au Nigeria, pas moins de 10 soldats ont été tués, 9 autres blessés lors de l'attaque d'un convoi militaire dans le nord-est du pays. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Le convoi militaire a été attaqué alors qu'il retournait sur sa base à Damboa, dans l'état de Borno. Selon l'armée, les échanges de tirs ont duré près d'une heure et 9 combattants de Boko Haram ont été tués avant que les forces nigérianes ne se replient. En plus des morts et des blessés, 12 soldats sont portés disparus, d'après un officier de l'armée. Damboa est la région de repli de la faction de Boko Haram dirigée par Aboubakar Shekau. Cette faction vise davantage les civils, alors que celle du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest a fait plusieurs morts au sein de l'armée nigériane et de la force armée conjointe régionale. Plus de 35 000 personnes ont été tuées dans ce conflit, qui a fait plus de 2 millions de déplacés à cause de l'insécurité permanente dans la région.
Attaque également au Burkina Faso, une embuscade tendue à un convoi transportant des employés d'une société minière canadienne dans l'est du pays a fait au moins 37 morts et 60 blessés mercredi. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière enregistrée au Burkina Faso depuis le début des violences djihadistes il y a près de 5 ans. Dans une adresse à la Nation, le président Roch Marc Christian Kabore a appelé à la mobilisation.
J'engage les forces de défense et de sécurité à traquer et combattre sans concession les terroristes et tous leurs complices et appelle notre peuple à la mobilisation générale contre le terrorisme. Dans ce sens, j'ai ordonné le recrutement de volontaires pour la défense de la patrie dans les zones sous menace. Seule une mobilisation générale des fils et des filles de la nation, sans considération de région, d'ethnie, est à même de vaincre ces meurtriers sans foi ni loi qui rêvent de soumettre notre patrie et notre peuple courageux à leur dictat machiavélique.
Pas loin de là, le chef de l'État malien, lui, s'est rendu à Gao, dans le nord du pays. Ibeka est venu au chevet des blessés rescapés de l'attaque terroriste de Indeliman, survenue le 1er novembre dernier. Une attaque qui a coûté la vie à près de 54 militaires maliens. De Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
C'est aux alentours de 11h heure locale que l'avion présidentiel a atterri à l'aéroport de Gao. Le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, est venu s'enquérir de l'état de santé des militaires blessés dans l'attaque terroriste de Ndeliman le 1er novembre dernier. C'est le gouverneur de la région de Gao, Sidiki Samake, qui l'a accueilli à sa descente d'avion. Ibeka s'est entretenu ensuite avec la hiérarchie militaire pour leur exprimer sa compassion et son soutien total à travers lui, le soutien de tout le peuple malien. Puis après, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est rendu à l'infirmerie du camp 1 de Gao, où les blessés de l'attaque du camp de Ndeliman continuent à recevoir des soins appropriés. Il faut le rappeler déjà que dans son discours à la nation, Ibrahim Boubacar Keïta avait appelé les Maliens à l'union sacrée autour des forces de défense et de sécurité, en rappelant que le pays, c'est-à-dire le Mali, est en guerre. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Et puis les Mauriciens ont voté aujourd'hui dans le calme pour un scrutin législatif. Le premier ministre sortant, Pravin Jugnauth, espère obtenir l'onction populaire 2 ans après avoir succédé à son père sans élection. Les bureaux de vote ont fermé à 14h GMT. Eric Manirakiza.
Quelques 941 000 électeurs inscrits étaient appelés aux urnes, mais un nombre inhabituel d'électeurs n'ont pas pu voter, ayant découvert devant l'isoloir qu'ils n'étaient pas inscrits sur les listes. Les résultats devraient être connus demain en fin de journée. Pour la première fois depuis 1976, ces élections ont mis aux prises 3 blocs et non 2. Les électeurs devaient choisir 62 députés, dont 60 dans l'île principale Maurice et 2 à Rodrigues, à 600 km plus à l'est. La commission électorale doit ensuite nommer 8 députés parmi les non élus ayant obtenu les meilleurs scores afin de rééquilibrer la répartition des sièges entre partis et communautés. Depuis son indépendance du Royaume-Uni en 1968, l'île Maurice est l'une des démocraties les plus stables et plus riches d'Afrique, avec un produit intérieur brut par habitant de plus de 10 000 dollars. Elle a connu une croissance de 3,7% en 2018 à la faveur du dynamisme des activités de construction et de services, surtout le tourisme et le secteur bancaire, alors que la production de sucre a diminué.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Encore sous le choc après le massacre de 9 de leurs membres, les Mormons du nord du Mexique enterrent leurs morts entre douleur et colère. Hier soir, un impressionnant convoi de quelques 70 véhicules est arrivé depuis l'état de Chihuahua pour assister aux obsèques aujourd'hui et demain. Le point avec Bagasikoura.
Au rancho La Mora où vivaient les victimes, les Mormons préparent les funérailles qui ont débuté aujourd'hui et doivent se prolonger jusqu'à demain. Une partie des cercueils doit être transférée vers l'état voisin de Chihuahua où vit l'essentiel de la communauté. Sur la scène de crime, plus de 200 douilles ont été retrouvées au pied des 3 véhicules où circulaient les victimes, dont un totalement carbonisé. C'est à la limite des états de Sonora et Chihuahua, frontaliers des États-Unis, que 3 femmes et 6 enfants de cette communauté ont été pris dans une fusillade. 8 autres enfants ont survécu, dont un nouveau-né qui a été protégé des balles par le corps de sa mère. Les Mormons rejettent l'hypothèse avancée mercredi par les autorités mexicaines, selon laquelle les victimes se sont trouvées au cœur d'une bataille entre 2 cartels de la drogue. Cette communauté estime avoir été une cible directe des cartels à la suite de menaces explicites.
Et puis l'Iran a repris ses activités d'enrichissement d'uranium ce jeudi à l'usine souterraine de Fordo. C'est ce qu'indique un communiqué de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique. La reprise de l'enrichissement a été annoncée mardi par le président iranien Hassan Rouhani au lendemain de l'expiration d'un délai donné par Téhéran aux autres parties de l'accord sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOAfrique et VOAfrique.com. L'actualité économique en Afrique et dans le monde, c'est la Minute Éco avec Nanit Talani.
L'Italien Saipem a remporté un contrat d'environ 100 millions de dollars en Guinée équatoriale pour la construction d'un pipeline sous-marin de 70 km reliant la plateforme d'Alen au centre pétrochimique de Punta Europa. Les livraisons de gaz du projet exploité par Noble Energy devraient commencer en 2021. Le gazoduc desservira les gisements de gaz offshore et aura une capacité de 950 millions de pieds cubes de gaz par jour. Il fait partie des projets visant à relier divers gisements de gaz offshore à des installations de gaz naturel liquéfié à terre et à transformer l'île de Bioko en une plaque tournante du traitement du gaz. Le Sénégal établit de nouvelles lois qui vont régir l'offre énergétique. Ce nouveau processus d'adjudication juridiquement contraignant garantira la transparence d'un nouveau cycle d'octroi de licences pétrolières et gazières, estime le directeur général de la Compagnie pétrolière nationale. La négociation de l'octroi de licences de façon directe ou de porte à porte sera évitée s'il est possible de faire autrement. Pour terminer, les autorités congolaises déclarent nulle et non avenue la suspension des activités de la société canadienne Bonro sur plusieurs de ses sites en République démocratique du Congo. En septembre, Bonro a déclaré que sa mine de Namouya était submergée par des miliciens Maïmaï, l'obligeant à déclarer la force majeure et à suspendre ses activités sur certains sites.
Et Yacouba Ouidraogo nous a retrouvés, c'est pour parler de sport.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
On commence Yacouba par Samuel Eto'o, fils qui estime que les joueurs africains ne sont pas respectés.
Oui, l'ex-attaquant camerounais récemment retraité des Pelouses l'a affirmé lors d'un entretien accordé à l'AFP avant la clôture ce vendredi des votes pour le Ballon d'Or France Football. On écoute Samuel Eto'o.
Les joueurs africains ne sont pas respectés, mais en premier par leurs propres frères. C'est ce qui est dommage, mais quand je le dis, certains se braquent et puis ils disent « mais pourquoi ils le disent ?» Mais parce que c'est vrai, parce que c'est un fait, parce que depuis des années, avant moi, avant que je n'arrive dans ce business, c'était déjà le cas. C'était une opportunité pour l'Afrique de voir un Sadio Mané, un Mohamed Salah être là au podium et pourquoi pas gagner. Ils ont fait une belle saison et ça n'aurait choqué personne qu'ils gagnent.
Samuel Eto'o, fils, ancien attaquant camerounais.
Et on reste avec le Cameroun pour parler de Thomas Libi qui a été limogé à la tête de la sélection des moins de 17 ans.
Les Lionceaux du Cameroun ont été éliminés de la Coupe du Monde des moins de 17 ans après 3 défaites en match de poule au Brésil. C'est Saint-Étienne Eto'o et 5 joueurs de la diaspora que le Cameroun a joué le mondial. Thomas Libi ne regrette pas d'être parti au Brésil sans Eto'o Junior et ses compagnons expatriés. Les joueurs de la diaspora n'étaient pas au niveau de ceux qui sont là. De là à regretter, je dis non. Je pense que les joueurs qui sont là le méritent et sont plus forts, a déclaré Thomas Libi à Aller les Lions. Pour rappel, un décret datant de 2014 stipule que pour les sélections nationales de football des moins de 15 ans et des moins de 17 ans, seuls les joueurs enregistrés dans les compétitions organisées par la FECA Foot peuvent être sélectionnés. Mais autorisation avait été donnée à Libi de constituer et de communiquer à la FIFA la liste définitive des joueurs sans tenir compte de quelques restrictions que ce soit. Mais le sélectionneur des Lionceaux a ignoré cette instruction, préférant aller au Brésil sans les joueurs de la diaspora.
Enfin Yacouba, 4e journée en Ligue Europa, c'est ce soir.
Arsenal se déplace sur la pelouse du Vitória Guimarães au Portugal. Une victoire des Gunners conjuguée à une défaite ou un match nul du Standard de Liège face à l'Eintracht Francfort serait synonyme de qualification pour les Anglais. La tâche s'annonce plus aisée pour le Séville FC qui jouera au Luxembourg pour y affronter Dudelange. Manchester United occupe la tête de son groupe avec 7 points. Et une victoire à Belgrade où il affronte le Partizan lui ouvrirait les portes du prochain tour. À suivre également le match de l'AS Rome. Les Romains se déplacent à Mönchengladbach, leader de Bundesliga, mais décevant dernier de la poule.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. John Lindon en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour et on commence par le Burkina Faso. Le Burkina, où une embuscade tendue à un convoi transportant des employés d'une société minière canadienne dans l'est du pays, a fait mercredi 37 morts et 60 blessés. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière enregistrée au pays depuis le début des violences djihadistes il y a près de 5 ans. Reportage à Ouagadougou de notre correspondant Lamine Traoré.
Au lendemain de l'attaque qui a fait 38 morts et des dizaines de blessés, c'est la tristesse et la consternation dans les rues de Ouagadougou.
En toute sincérité, on est très triste. Vraiment, ça nous écœure beaucoup.
Amadou Ouedraogo est commerçant à Ouagadougou.
Franchement, les autorités, ils doivent savoir comment faire pour nous sortir de là. Parce que actuellement, on est pris entre les quatre murs. Nos autorités, apparemment, ils ne font pas l'effort de lutter, ils ne prennent pas. C'est comme genre, ils ne prennent pas le problème à bras le corps.
Céline Oubda est étudiante.
Vraiment, ça me touche le cœur de savoir que non, j'ai des frères et des sœurs qui meurent chaque jour. Parce qu'il y a eu une attaque par-ci, par-là. Si ce n'est pas des militaires, ce sont des gendarmes, la gendarmerie, les policiers. Ce n'est pas une question du gouvernement. Il faudrait que la population même réagisse en fonction de ça. Il ne faudrait pas que nous, on est là, le gouvernement doit faire ça, le gouvernement doit faire ça. Il faudrait que nous tous nous y mettons.
Le président Kabore, qui a toujours condamné énergiquement, pour reprendre ses termes, les attaques sur son compte Twitter, s'est adressé à la nation cette fois-ci. En plus du deuil national décrété, Roch Kabore appelle à la mobilisation générale.
J'engage les forces de défense et de sécurité à traquer et combattre sans concession les terroristes et tous leurs complices, et appelle notre peuple à la mobilisation générale contre le terrorisme. Dans ce sens, j'ai ordonné le recrutement de volontaires pour la défense de la patrie dans les zones sous menace. Seule une mobilisation générale des fils et des filles de la nation, sans considération de région, d'ethnie, d'opinion politique et de confession religieuse, est à même de vaincre ces meurtriers sans foi ni loi qui rêvent de soumettre notre patrie et notre peuple courageux à leur dictat machiavélique.
Pour l'analyste Siaka Koulibaly, cette décision de recrutement de volontaires pour la défense de la patrie doit être bien encadrée.
C'est une mesure qui peut s'insérer dans le cadre d'un dispositif cohérent de défense du territoire. Mais s'il s'agit juste de mobiliser les jeunes afin qu'ils jouent un rôle distinct du travail que font les forces de défense et les services de sécurité, je crains que l'opération non seulement ne donne pas de résultats, mais même qu'elle peut exposer les populations au terrorisme encore plus que par le passé.
Les autorités pensent que le pays pourra faire face à cette lutte, mais c'est la déception au sein de la population qui estime qu'il faut encore faire plus. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
De Ouagadougou, direction Dakar au Sénégal. Et s'il vous arrivait de vous déplacer en voiture dans la capitale sénégalaise, prenez votre mal en patience, car les embouteillages y sont monstres, comme l'indique Sédina Abagué dans ce reportage.
Les embouteillages à Dakar sont devenus un casse-tête pour les automobilistes et les populations qui ont du mal à se déplacer pour leurs activités quotidiennes. Des désagréments que Mamoudou Sall subit chaque jour dans des conditions qu'il dénonce.
C'est souvent l'occupation anarchique des voies publiques, c'est à cause des embouteillages. Et l'occupation, quand je dis l'occupation anarchique des voies publiques, ça, eh bien, marchand ambulant jusqu'au, je sais pas, aux automobilistes et consorts. Donc, je n'ai pas de personne, ça veut dire que c'est tous les Sénégalais, quand même, qui devraient veiller donc, à l'ordre normal des choses. Il doit d'abord y avoir des leçons de civisme, peut-être, mais après, peut-être une surveillance.
Les automobilistes sont les plus touchés par ce phénomène car ils restent coincés dans les embouteillages pendant des heures. Et au-delà de l'aspect économique, ces derniers craignent pour leur santé, comme l'indique Mam Matar Sek.
Je suis dans la circulation de 8h à 23h et je vous dis que la pollution est également un aspect qu'il ne faut pas. Il y a les cars qui sont vétustes, qui sortent de la fumée. On inhale cette fumée-là, on respire cela, ça passe par nos poumons et ça peut nous donner des maladies. On ne sait même plus à quel sens se vouer. et on craint même d'attraper des maladies dans ces situations.
Des conséquences sur le plan sanitaire, il y en a énormément à cause de la pollution. Le constat est du médecin généraliste Sidi Ababakar Tall. Ce dernier estime que les zones urbaines sont les plus touchées à cause du taux de pollution élevé.
Ces particules sont retrouvées en grande quantité dans les zones urbaines, entre autres le dioxyde de carbone, communément appelé gaz carbonique, le monoxyde de carbone, l'ozone ou les particules fines. Donc ces particules peuvent être à l'origine d'infections cardio-respiratoires sur une longue exposition.
Les travaux routiers inachevés et certains dysfonctionnements dans la gestion urbaine sont les principales causes des embouteillages dans la capitale sénégalaise. C'est du moins l'avis de l'expert cartographe Mamoudou Farbassi.
Le gouvernement augmente des routes, mais les véhicules aussi viennent, donc c'est un problème. De deux aussi, il y a pas mal d'autres ponts qui sont en train d'être construits. Donc quelque chose qui est en travaux, qui n'est pas encore terminé, ça peut être source d'embouteillage en quelque sorte. Vu qu'on barre certaines routes pour pouvoir en construire d'autres.
Face aux embouteillages qui prennent de plus en plus d'ampleur à Dakar, les autorités ont annoncé la mise en place de plusieurs projets d'aménagement routier. La construction d'une vingtaine d'autoponts est d'ailleurs en cours dans la capitale sénégalaise. Le président Macky Sall a également lancé les travaux du bus rapide transit qui a pour objectif principal de faciliter la mobilité urbaine dans Dakar et sa banlieue pour un coût global d'environ 300 milliards de francs CFA. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, la crise politique en Guinée-Bissau. Alors que le pays doit se rendre aux urnes le 24 novembre pour élire un nouveau président, le chef de l'État, José Mario Baaz, a limogé son premier ministre, Aristide Gomez, qui, fort du soutien de la CDAO, refuse de partir. Une situation qui fait craindre le pire pour ce pays qui a vécu plusieurs coups et tentatives de coup d'État depuis son indépendance. Pourquoi cette crise politique au sommet perdure-t-elle? Quel est le rôle de l'armée dans cette crise? Qu'en est-il de la médiation de la CDAO? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique.
Les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie se sont réunis hier à Washington. Ils ont été reçus par le président américain Donald Trump, qui a dit vouloir aider à résoudre la dispute concernant le barrage éthiopien de la Renaissance qui est en train d'être construit. Pourquoi les eaux du Nil sont-elles si importantes pour ces trois pays? Idriss Fall a joint Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines.
Historiquement, l'Égypte ne peut pas vivre sans l'eau du Nil et avec la population qui est en pleine expansion. Si vous coupez même un petit pourcentage de l'eau, l'Égypte sera en grande difficulté. Donc, avec ce barrage que les Éthiopiens sont en train de construire, il y a un grand risque que l'Égypte va perdre un certain pourcentage de leur eau.
L'Éthiopie aussi a besoin d'avoir de l'électricité, de sortir de la pauvreté.
Bien sûr, il mérite d'avoir l'électricité, mais il faut trouver un moyen que l'eau qui va passer par le barrage ne va pas diminuer l'eau qui va entrer en Égypte.
Le Soudan, dans tout ça, le Soudan qui est au milieu, coincé entre ces deux puissances régionales.
Le Soudan aussi a besoin de cette eau. Le Soudan reçoit l'eau du Nil Blanc qui vient de l'Ouganda. Donc, ils sont moins concernés, mais quand même, ils ont besoin de cette eau. Donc, ils ont le même problème que l'Égypte.
Mais l'Égypte avait déjà le plus grand barrage, le barrage d'Assouan.
Oui, bien sûr, mais ça ne coupait pas l'eau. Ça laissait l'eau passer et donne l'électricité aussi. Ce que l'Égypte désire, c'est que l'Éthiopie laisse passer toute l'eau. Bien sûr, prenez votre électricité, mais il ne faut pas garder l'eau. Et un autre problème, c'est de remplir le grand bassin derrière le mur. L'Éthiopie veut remplir ça dans 4 ans. Et ça va couper l'eau pour l'Égypte. Et l'Égypte remplissait ça pendant 7 ans.
C'est des questions vitales pour les deux pays.
Oh, c'est moins vital parce qu'il y a différents moyens d'avoir l'électricité. Les dirigeants d'Éthiopie qui ont leur problème interne maintenant. Ils ne veulent pas donner l'impression qu'ils sont faibles devant les Arabes. Dans l'histoire, les Éthiopiens avaient toujours des problèmes avec les pays arabes. Ils ne peuvent pas montrer qu'ils sont faibles, donc ils parlent comme ça. Mais si les États-Unis proposent une solution, tout le monde va dire « Oh, les États-Unis ont proposé ça, on va accepter. »
Mais qu'est-ce que les États-Unis peuvent proposer alors?
À mon avis, la solution, c'est que l'Éthiopie est d'accord pour laisser passer tout l'eau, garder rien, parce qu'ils n'ont pas besoin d'arroser chez eux. Et aussi, au lieu de remplir le grand bassin dans 4 ans, disons, entre 7 ans, peut-être 6 ans. Il y a des compromis faciles et c'est pourquoi l'Amérique dit, oh, nous allons trouver une solution. Donc, si vous n'êtes pas content, c'est la faute des États-Unis.
L'Union africaine, pourtant, ils sont basés à Addis Abeba. On ne les entend pas dire quoi que ce soit sur cette question.
Oui, c'est dommage. Normalement, ça doit être l'Union africaine. Ils ne se sont pas proposés. Donc, c'est l'Amérique qui est entrée pour remplir le vide.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines.
Participez à notre magazine interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets, sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique et VOA Afrique. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Demain, vendredi 8 novembre, marque le 3e anniversaire de l'élection de Donald Trump, 45e président des États-Unis. En politique, M. Trump reste une force de la nature, mais cet anniversaire survient au moment où il fait face à une enquête parlementaire pour une éventuelle procédure de destitution contre lui. Les démocrates de la Chambre des représentants l'accusent d'avoir fait pression sur l'Ukraine pour qu'elle enquête sur l'ancien vice-président Joe Biden, un possible rival démocrate en 2020. Jim Malone, correspondant de la VOA à Washington, fait le point. Le récit est de Lionel Gaïma.
3 ans déjà depuis cette nuit, de toutes les surprises. Donald Trump, 45e président des États-Unis.
À tous les républicains, démocrates et indépendants de ce pays, je dis qu'il est temps de nous mettre ensemble pour former un peuple uni.
Cet appel à l'unité n'a pas duré longtemps.
Plus nous faisons des choses, plus le démocrate devient haineux et enragé.
Monsieur Trump compte sur la loyauté de sa base pour résister à la procédure de mise en accusation et pour se faire réélire l'année prochaine.
L'enjeu de cette bataille, c'est la survie de la démocratie américaine elle-même. Ne vous leurrez pas. C'est ce qu'ils veulent. Ils détruisent ce pays, mais nous ne les laisserons jamais faire.
L'enquête en vue de sa mise en accusation à la Chambre est axée sur des prétendus efforts pour faire pression sur l'Ukraine afin qu'elle enquête sur son potentiel rival politique, l'ancien vice-président Joe Biden. Maintenant, M. Biden a fait de Trump son cheval de bataille pour remporter l'investiture du Parti démocrate pour la présidentielle de 2020.
Il parle de « there will be a civil war ».
Il affirme qu'il y aura la guerre civile. C'est un type déséquilibré. Il est désarticulé. Je suis inquiet pour ce qu'il va faire. Pas pour moi ni pour ma famille, mais je suis inquiet pour ce qu'il fera l'année prochaine de sa présidence.
Comme dans beaucoup de cas sous la présidence de Trump, l'enquête parlementaire en vue de son éventuelle destitution se joue sur une ligne très partisane. L'analyste John Fortier du Centre de politique bipartisane.
Les démocrates croient que le président a fait quelque chose de mal et qu'ils vont apporter de nouvelles preuves. Ils espèrent que l'opinion se retournera contre le président et que cela leur permettra peut-être de le destituer. Les républicains s'appuient sur le précédent et en pensant que cela pourrait se retourner contre les démocrates ou simplement faire long feu.
Les sondages montrent un taux d'approbation de Trump se situant autour de 40%, ce qui est historiquement bas pour un président sortant. Mais sous-estimer l'aptitude de Trump à galvaniser sa base politique est dangereux, d'après le stratège républicain John Fiery.
Les experts de Washington ont-ils tout oublié de Donald Trump? Absolument. Ils n'ont aucune idée du véritable attrait qui les est au niveau viscéral. Une des raisons pour lesquelles ses partisans le soutiennent est qu'il tient ses promesses et il a remis l'économie en marche.
Même si Trump est finalement mis en accusation par la Chambre dominée par les démocrates, il survivra probablement à un procès au niveau du Sénat contrôlé par les républicains. Et 3 ans plus tard, les Américains encore plus divisés se préparent à une bataille passionnée au Congrès, qui sera suivie par une présidentielle parmi les plus farouchement disputées de ces dernières années.
Et c'est la fin de ce journal mis en onde par Georges Léonard Sagnoni qui était à la console. Présentation, John Lyndon. Merci d'avoir suivi.
VOA Afrique, les infos.